Bon. Parce que moi, je suis un Français presque belge. Si tout va bien, je serai enterré tout près de la Belgique. Tout près de Bon Secours, ça vous dit quelque chose? Vernissard, là où vous avez trouvé votre iguanodon. Là, que je suis pas un iguanodon, mais... voilà. Puis Descouvement, c'est un nom presque belge, je crois. Ça ressemble beaucoup à Scourmont. Hein? Mon abbaye préférée. Non pas à cause de la bière, mais à cause des moines. Bon, allez, il faut être sérieux. Hein. Voilà. En personne.
Le diocèse de Quimper, c'est un homme qui fait beaucoup de conférences, la retraite, qui écrit beaucoup de livres, très intéressants, j'en ai acheté quelques-uns d'ailleurs, lors de l'entrée de mon écart. Sa thèse de l'enfant Jésus, on fait une grosse brique avec de magnifiques photos, il parle aussi du père Damien, je pense. Hein.
Non, curé d'Ars. Mais c'est aujourd'hui la fête de Saint Damien.
Oui, c'est ça.
Oui, j'ai repéré, c'est la fête de Saint-Damien aujourd'hui.
André Pio, Sainte-Thérèse, enfin, j'ai beaucoup de livres, le guide de la foi catholique, les difficultés, etc. Voilà. C'est très intéressant de l'écouter. Vous allez voir, il est facile, audible. Voilà. Je vous cède tout de suite la parole.
C'est bien. Eh bien, je suis content de venir pour la première fois à Beaumont, même si je vais mettre cela. Voilà. Voilà. Donc j'ai décidé de... Enfin, on s'était mis d'accord pour montrer que la justice et la miséricorde de Dieu, c'est deux façons pour Dieu de nous aimer. Bon, apparemment c'est contraire, mais nous allons voir que c'est complémentaire. Vous avez tous entendu parler de Sœur Faustine. Hein, vous savez que... Bon, Sœur Faustine, c'est donc une sœur polonaise qui a reçu une révélation du Seigneur, lui demandant de faire instituer par le pape la journée de la miséricorde. Hein, le 1er mai, c'était pas seulement la béatification de Jean-Paul II, c'était aussi la fête de la miséricorde instituée par Jean-Paul II en l'an 2000, le jour où il a canonisé cette sœur Faustine. Parce que comme il était à Cracovie, archevêque, il a été obligé de s'occuper de la cause de canonisation de Sœur Faustine. Alors Sœur Faustine est une religieuse polonaise qui est morte à Cracovie, qui a écrit un petit journal que j'ai regardé d'un peu près, et on va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Hein? Bon. Et on a remarqué que providentiellement, Jean-Paul II est mort quelques heures avant la fête de la miséricorde, le samedi soir qui précédait la fête de la miséricorde. Hein? Voilà. Alors, bon. Il y a un paradoxe dans l'Évangile. Hein? Dieu ne cesse de nous dire qu'il nous pardonne. Hein? Ça va aller. Il n'y a pas de problème. Oui, il faut être mieux. Non, c'est vrai. C'est l'esprit pratique des Belges, ça, voilà.
C'est mieux ici.
Voilà, oui. Je...
Voilà.
Oui, très bien. Dieu ne cesse de nous dire qu'il nous pardonne, qu'il nous aime gratuitement. La preuve, c'est que ce matin, lorsque vous étiez encore dans une PPP, dans une position parallèle au plancher, quand vous étiez encore en train de dormir, Dieu vous aimait déjà. Donc on insiste beaucoup dans la prédication d'aujourd'hui, comme d'hier, sur cette gratuité de l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas d'être aimés par Dieu. Dieu ne vous aime pas ce soir parce que vous êtes en train d'assister à une conférence religieuse, ou parce que je donne une conférence religieuse. Il nous aime parce qu'il nous aime. La preuve, c'est qu'il nous aime de toute éternité. C'est vrai que de temps en temps, je prêche devant le Mont Blanc. Il y a un lieu magnifique en France, le foyer de charité de la Flatière. Au lieu de regarder le prédicateur, vous regardez à travers une fenêtre le Mont Blanc. C'est pas mal, quoi. Hein? Bon. Eh bien, avant l'existence du Mont Blanc, Pierre d'Escoumont existait déjà dans la pensée de Dieu. C'est extraordinaire, quoi. Il faut d'ailleurs peut-être toute une vie pour y croire vraiment. Dieu nous aime parce qu'il nous aime, quoi. Hein? Il y a ici des mamans qui savent qu'elles ont aimé leur enfant avant même qu'il ne soit conçu, en tout cas avant même qu'il ne montre le bout de son nez en sortant du ventre de la maman. Hein, vous avez aimé vos enfants avant même qu'ils n'arrivent. Eh bien, a fortiori, Dieu nous aime comme ça. Mais, d'autre part, nous disons dans le credo, il reviendra juger les vivants et les morts. Nous serons jugés suivant nos actes. Vous connaissez la célèbre parabole où Jésus raconte l'histoire de 10 jeunes filles, hein, et il y en a 5 qui ont été obligées de mettre de l'huile dans leur lampe, et le Seigneur n'est pas content. Il faudra prouver un petit peu qu'on est capable d'arriver au ciel. Hein, il faut mériter le ciel. Alors ça paraît contradictoire. D'un côté, Dieu nous aime gratuitement, et montre-moi un petit peu ce que tu as fait. Hein? Bon. J'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. J'étais en prison et tu es venu me visiter. Donc il faudra arriver avec une bonne dose d'amour. Hein? Bon. Donc ça semble contradictoire. Alors, nous allons voir ça. Bon. Et même, les sans cœur iront en enfer. Hein? J'ai pas le droit de vous dire que nous avons le devoir d'espérer que tout le monde au paradis, mais je ne peux pas vous assurer que nous irons tous au paradis. Hein? C'est même dangereux si je dis à des jeunes, vous savez mes enfants, vous êtes, il n'y a pas de problème, on va tous au paradis. Que font les jeunes si c'est vrai? Ben, ils se suicident pour aller tout de suite au paradis, prennent le TGV. Les jeunes, ils comprennent ça au quart de tour. Un prêtre qui croirait bien faire en disant, vous savez, Dieu est tellement bon qu'il ne faut pas s'embêter, hein, Dieu, il ne faut pas s'en faire, il n'y a pas d'enfer, il ne faut pas s'en faire. Il pousse les jeunes à se suicider. Vous n'avez jamais pensé à ça? Si on est sûr d'aller tout de suite au paradis, mais allons-y tout de suite, suicidons-nous. Pas plus tard que cette, j'étais à Paris cet après-midi, heureusement j'avais mon portable, j'ai eu au bout du fil une personne qui avait envie de se suicider. Ça trouvait bien, mon portable était ouvert. Et puis j'avais le temps, je ne devais pas prendre le train tout de suite à Paris. Alors, je lui ai pas dit, mais vas-y, dépêche-toi, va au paradis. Suicide-toi. Bon. Attention. Donc, la miséricorde de Dieu, il faut la découvrir, il faut l'accepter, il faut s'en réjouir. Il faut découvrir un jour que nous sommes aimés d'un amour de miséricorde, à travers des expériences extrêmement différentes les unes des autres. Alors, j'ai mis quatre... Hein, attendez, c'est le problème, c'est que... Oui, c'est ça, voilà, d'accord. C'est parce qu'il ne faut pas que je vous empêche d'en faire. Merci. Voilà. Oui, voilà. Il y en a qui découvrent la miséricorde de Dieu après avoir fait de grosses bêtises. Hein? Bon, le type, c'est Marie de Magdala dans l'évangile, Marie-Madeleine. On dit dans l'évangile que Jésus l'avait libérée de 7 démons. Donc, il est fort possible qu'elle ait une vie, on la présente souvent comme une pécheresse, hein, dans les tableaux. Ou bien, un exemple que j'aime bien, c'est celui de Jacques le Breton. Il est venu en Belgique souvent, mais quels sont ceux qui ont entendu parler de Jacques le Breton? Quelques-uns, bon, quelques-unes. Non, cet homme qui a perdu les mains et les yeux en laissant une brodade exploser sur lui après la bataille d'Al-Alamein, la première victoire des alliés sur les armées de Rommel. Alors, dans un premier temps, quand il s'est aperçu qu'il n'avait plus de main, il s'est révolté évidemment contre Dieu, il a essayé de se suicider, mais il ne pouvait pas, bon. Et puis il a eu la chance, la grâce de découvrir Dieu dans son lit d'hôpital à Damas, sous l'influence d'une religieuse bretonne qu'il soignait. Mais il a eu la chance d'avoir un métier, de se marier avec une Yvonne, et c'était vraiment un mariage d'amour. Et puis en 1954, quand l'Église a supprimé l'expérience des prêtres aux ouvriers, il s'est tellement révolté contre cette décision du Vatican, du fait que son propre frère, qui vivait en bidonville dans la région parisienne, était prêtre ouvrier, eh bien, il s'est révolté contre l'Église, il s'est inscrit au Parti communiste, il a envoyé ses enfants dans une école communiste, je ne savais d'ailleurs pas que ça existait en France, des écoles où les enfants étaient traités vraiment comme dans un goulag, et il a renié Dieu pendant six ans. Et il a traité sa femme dans la dernière comme un chien parce qu'elle ne supportait pas qu'Yvonne conserve la foi qu'elle avait perdue. Et puis, en 1960, en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il s'est converti. Après avoir blasphémé encore à la table familiale le dimanche midi, le lundi matin, il suppliait sa maman de le conduire quelque part pour qu'il puisse se confesser. Tellement il avait chialé, pleuré toute la nuit en se rendant compte qu'il était un pauvre type. J'étais allé l'écouter avec une bande de jeunes, et ne connaissant rien à son itinéraire, j'ai été très étonné qu'il ait pu abandonner Dieu comme ça pendant 6 ans. Alors, à la fin de la conférence, je lui ai posé, comme sur papier, la question suivante. Monsieur le Breton, comment avez-vous pu renier Dieu alors que vous l'aviez si bien découvert à 20 ans sur votre lit d'hôpital? Mais comme j'avais déjà les idées que je développe ce soir, j'avais ajouté timidement sur mon papier, peut-être bien que la première fois, vous n'aviez pas encore vraiment découvert Dieu, n'ayant pas découvert sa miséricorde. Quand l'impresario du soir lui a lu ma question, il a répondu de sa voix caractéristique au micro, « Voilà une question intéressante, il y a à la fois la question et la réponse qui fait... » Et il a dit que c'était tout à fait cela, qu'il avait fallu qu'il renie Dieu pour découvrir enfin le vrai visage de Dieu. Et maintenant, j'espère bien que je ne lâcherai plus, ou plutôt qu'il ne me lâchera pas. Notre amitié est née de cette première rencontre. D'ailleurs, il y a quelqu'un de Maubeuge, hein, je suis passé tout près tout à l'heure de Maubeuge, il y a une personne de Maubeuge qui a écrit sa biographie, La vie est belle en crevée, hein, Madame Le Maire, qui a été longtemps professeur au collège Notre-Dame-de-Grâce.
Monsieur de Maubeuge.
Monsieur de Maubeuge, hein, ah oui. Hey, vous connaissez Madame Le Maire, non?
Oui.
Françoise Le Maire, hein? Elle a écrit plusieurs livres, parce qu'elle a... J'avais fait venir Monsieur Le Breton à Maubeuge, du coup, Bon, donc, un jour ou l'autre, il faut découvrir qu'on est un pauvre type, quoi. Bon. Alors d'autres le découvrir après une chute lamentable. Le premier pape, c'est quand même lamentable, hein? Il était prévenu. Il a eu peur de dire qu'il connaissait Jésus devant une concierge. Tu connais, t'es de Galilée, toi. T'es fait partie du groupe des Jésus. Je ne connais pas ce mec-là. Je te le jure. Trois fois de suite. C'est quand même pas très glorieux pour le premier pape, hein. Trois fois de suite, il a trouille. Imaginez ce que devait être la prédication de Saint-Pierre, hein. Il disait, vous savez, je faisais pas le malin. C'est vrai que c'est à moi que Jésus a confié le soin de diriger l'Église, mais vous savez, j'ai été lamentable, quoi. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Il y en a qui le découvrent avec une vie sans accroc. Par exemple, j'ai beaucoup étudié Sainte Thérèse et le curé d'Ars. Voilà des gens qui ont eu une jeunesse extrêmement préservée, qui n'ont une jeunesse sans bobo, quoi. La petite Thérèse, que voulez-vous? J'allais presque dire, elle n'a pas tellement de mérite. Elle n'avait pas tellement de mérite parce qu'elle a été élevée par des parents super, qu'on vient de béatifier, des grandes sœurs très gentilles. Elle n'a jamais rencontré un nain. Elle n'a jamais été maltraitée en quoi que ce soit. Hein? Mais elle savait qu'elle était profondément orgueilleuse. Et elle savait qu'elle était en danger de rater sa vie à cause de son orgueil. Parce qu'elle se rappelait que, petite fille, elle aimait beaucoup être la première en classe. Elle faisait toute une histoire parce qu'elle n'avait pas une bonne note qui lui permettait d'avoir la médaille à la fin du mois. Elle était profondément orgueilleuse. Le curé d'Ars, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, c'est la même chose. Une jeunesse extrêmement généreuse. Bon, il était un saint presque déjà dans sa jeunesse, mais le Seigneur lui avait révélé à un certain moment, avant qu'il ne devienne célèbre comme confesseur, qu'il était vraiment marqué par le péché originel. Et que si les circonstances avaient été autres, il aurait pu être un grand pécheur. Et Dieu s'arrange d'ailleurs toujours pour que les gens qui vont devenir célèbres réalisent d'abord qu'ils sont de pauvres types comme les autres. Et j'aime bien ce que disait le père maître des Dominicains en 1945 aux novices. Messieurs, si vous ne vous rendez pas compte que les circonstances ayant été autres, vous auriez pu être tortionnaire dans un camp nazi. Vous n'avez rien à foutre chez les Dominicains. Parce que vous ne pourrez pas prêcher la miséricorde de Dieu si vous ne vous considérez pas que Dieu vous a fait miséricorde à vous-même. Bon, et il y a des gens qui sont de saintes gens, mais un jour ou l'autre, ils se rendent compte que, oh là là, moi aussi j'aurais pu être un pauvre type, moi aussi j'aurais pu être très méchant, moi aussi j'aurais pu renier Dieu. Bon. Et alors, j'ai hâte d'arriver à la quatrième catégorie, c'est sans doute la vôtre, comme la mienne. Ce sont des gens qui n'ont pas fait de grosses bêtises, qui n'ont pas fait de grosses chutes, mais vers 40 ans, 45 ans, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si bien que ça, quoi. Ils perdent leurs illusions de jeunesse. C'est le problème des moines, voyez, des moines de Chimay ou du Mont des Cats. Ce sont des gens qui sont entrés à 18 ans avec toute leur générosité, avec l'idée de se donner à fond à Dieu, et puis ils se rendent compte qu'ils sont capables d'être jaloux, d'être méchants, hein. Je prends des exemples de moines, comme ça vous ne vous sentez pas directement concerné. Et, bon. Et quand je parle aux moines, je parle des couples, comme ça ils ne se sentent pas non plus directement concernés. Vous faites l'application à votre vie. Hein, le moine qui sait très bien chanter et qui n'a pas été choisi comme maître de chant. Pourquoi c'est pas moi qui ai été choisi? Ou bien comme maître et de novice, ou bien comme prieur. Oh là là, je me rends compte que je suis capable d'être très très jaloux, très très méchant. Ils deviennent de bons moines, parce qu'ils peuvent chanter la miséricorde de Dieu. Ils peuvent chanter avec la Sainte Vierge, le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint et son nom, sa miséricorde s'étendre. Bon, il faut un jour découvrir qu'on est pécheur, vous voyez. Il y a des gens qui ne découvrent ça que sur un tard. Il y en a qui le découvrent très tôt. Bienheureux ceux qui le découvrent très tôt. Donc il faut la découvrir, qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu. Hein? Sinon, vous êtes un pharisien qui s'ignore. Il doit y en avoir en Belgique comme en France. Seigneur, je ne suis pas un saint, mais je suis brave. D'ailleurs, je viens à des conférences. Vous voyez, je viens à des conférences sur la miséricorde. Je suis quand même un brave type, quoi. Cœur sacré de Jésus et confiance en moi. Ils n'ont pas besoin de prier. Quoi. Non, un jour, il faut se rendre compte. Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Seigneur, à notre secours. Avant de célébrer l'Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Bon, l'accepter. Ensuite, la découvrir. Ensuite, l'accepter vraiment. Ne pas en faire tout un drame. Non. Je connais des personnes qui ont besoin, qui mettent des années à accepter la miséricorde de Dieu. Hein? Ils ont fait une grosse bêtise à un certain moment de leur vie. Puis ils ont persévéré dans cette bêtise. Qu'est-ce qui faisait mon ange gardien à ce moment-là? Mon père, vous êtes d'accord pour dire que l'ange gardien, il est là pour nous protéger. Et vous donnez des exemples merveilleux de protection de l'ange gardien. Qu'est-ce qui faisait mon ange gardien quand j'ai fait cette bêtise? Il était au chômage? Il dormait? Donc, il faut en quelque sorte pardonner au bon Dieu. Non, on n'a pas à pardonner. Le bon Dieu, il n'a pas de compte à nous rendre. Mais un jour, il faut dire, mais oui, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres, comme a dit dans le Nord. Avec le patois des ch'tis. Moi aussi, faut accepter d'être misérable, d'être fragile, d'être capable du pire. Pourquoi? J'ai même écrit un petit livre là-dessus, Lettre à une enfant prodigue, pour expliquer à une fille qui a fait des bêtises que du coup elle ne sera pas Maria Goretti, elle sera Marie-Madeleine. Mais qu'on peut être une grande sainte en étant Marie-Madeleine comme Maria Goretti. Je rencontre plus d'une. C'est pas facile. Alors, Seigneur l'a vu, monsieur l'abbé, vous, ça, parce que vous n'avez pas eu de problème comme ça, vous avez eu de la chance, vous avez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que Jésus nous dit que les prostituées peuvent nous précéder dans le royaume des cieux. C'est pour moi une évidence, comme pour la plupart des prêtres. Parce que lorsque ces personnes qui ont fait de grosses bêtises acceptent la miséricorde de Dieu, elles chantent le Magnificat mieux que les autres. C'est Jésus qui le dit. Les prostituées et les publicains vous précéderont dans le royaume des cieux, non pas à cause de leurs bêtises, de leur prostitution et de leur fausse facture, mais parce qu'elles peuvent chanter la miséricorde de Dieu mieux que les autres. D'ailleurs, celle qui, c'est la Sainte Vierge. Pourquoi la Sainte Vierge chante si bien le Magnificat? Parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a absolument pas mérité d'être l'Immaculée Conception. Elle a été choisie, elle se demande encore, n'est-ce pas Marie? Tu te demandes encore pourquoi c'est tombé sur toi, quoi. Elle n'a absolument pas mérité cela. Bon, accepter. Hein? Non. Bon. Alors, c'est une expérience qu'on fait. Les Juifs ont un sens très vif d'être là, parce que les Juifs connaissent la Bible, ils savent dans leur histoire, ils n'ont cessé de se révolter contre Dieu. Dès le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, ils râlent tout le temps. Le Seigneur est toujours obligé de leur pardonner. Donc il n'y a pas que les chrétiens qui croient à la miséricorde de Dieu, les juifs y croyaient déjà. Vous connaissez la carte de visite de Dieu qui revient souvent sous la plume des prophètes. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Hein? Bon. J'ai hâte d'arriver au troisième point. Non seulement il faut l'accepter, mais s'en réjouir. Alors ça, c'est encore mieux. Hein? Il faudrait se lever tous les matins en disant « Seigneur, dire que tu m'as pardonné tous mes péchés. » Seulement, il faut s'obliger à s'en souvenir. Vous savez que c'est un des grands commandements de la Bible. « Souviens-toi, Israël !» Les plus âgés d'entre vous peuvent se rendre compte que le grand péché des hommes, c'est l'ingratitude. C'était la grande idée du curé d'Ars. J'aime beaucoup le psaume, on considère d'ailleurs que c'est l'un des plus, les plus beaux psaumes de la Bible, le psaume 103. « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » On oublie. Vous avez des gens qui ont été l'objet d'une, qui ont beaucoup récidivé dans le péché. Le Seigneur a beaucoup récidivé. Ils veulent pas s'en souvenir. Ils en ont marre de dire merci à Dieu. C'est leur péché. Ils veulent pas se souvenir. Ils regardent la télévision plutôt que de faire autre chose, plutôt que de dire un magnificat tous les soirs. Ils veulent pas se réjouir d'être des pécheurs pardonnés. Nous sommes tous des PPP, des pauvres pécheurs pardonnés. Et Jean-Paul II, c'était un PPP, un pauvre petit pape pécheur pardonné polonais. Vous voyez ? On n'échappe pas à la définition. C'est notre... Moi, je rêve d'une... C'est un prédicateur français, qui dit, le père Molinier, il rêve d'une procession des orgueilleux anonymes. Il y a les alcooliques anonymes, les AA, hein ? Il y en a peut-être parmi vous qui sont alcooliques anonymes, je ne les méprise pas, hein ? Des gens qui ont besoin de participer à des réunions pour ne pas retomber dans l'alcool. Donc j'ai retrouvé ces jours-ci un prêtre de mon diocèse qui a été alcoolique et qui est maintenant, il m'a dit, c'était il y a quelques jours, il m'a dit, mais j'ai parpiqué depuis 5 ans. Il a accepté de se faire guérir de son alcool. Dans presque tous les diocèses, vous savez, de France, il y a un prêtre qui est alcoolique, quoi, hein, qui en est sorti, c'est très bien. Hein? Bon, eh bien, pourquoi je raconte ça? Oui, alors, comme il y a les alcooliques anonymes, il y a les orgueilleux anonymes qui auraient demandé à la Sainte Vierge de les guérir. Alors, on aurait les cardinaux en tête, hein, suivis par les petits Belges, ensuite les Français, le Benoît XVI poussant, Seigneur, Vierge Marie, on vient demander la guérison de notre orgueil. Vous savez, tous les saints, ce sont des sauf la Sainte Vierge, ce sont des orgueilleux en train de se convertir. Nous sommes l'orgueil, notre défaut fondamental. Et un prédicateur, vous voyez, ce soir, je peux être tenté d'être orgueilleux parce que vous m'écoutez bien. Vous écoutez, vous ne dormez pas. Je suis riche, je peux être tenté par l'orgueil. Je viens de faire un serment sur l'humilité, et puis on est comme ça. Mais on ne s'affole pas. On sait heureusement que tu es là, Seigneur. Il faudrait que vous jouissiez tous les... Quand vous commencez l'Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous sommes orgueilleux, pardonnés. On n'en fait plus tout un drame. Non seulement on l'accepte, mais on s'en réjouit. Alors on devient de bons chrétiens. On est en marche vers la sainteté. Hein ? On n'essaye pas de se persuader qu'on n'est pas orgueilleux. On dit, ben oui Seigneur, je suis comme ça. Je suis une tête dure, mais je finirai par accepter que je suis un orgueilleux en train de se convertir. Il y en a qui mettent des années. Mais je fais vraiment pas le malin parce que il y en a qui mettent beaucoup de temps, mais Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Et c'est vrai. La grâce de Dieu ne tombe pas, c'est le grand mystère que Dieu ne donne pas sa grâce de la même façon à tout le monde. Vous le savez bien si vous élevez des enfants. Vous avez des enfants qui vont à la messe régulièrement sans problème, et puis le frère. Il y a une religieuse qui fait des dessins dans mes bouquins, près de Tournus. Elle m'a raconté il n'y a pas longtemps que à 12 ans, elle est devenue athée. Au moment où son frère jumeau entrait au séminaire. Puis je vous raconterai sa conversion si vous avez le temps tout à l'heure. C'est curieux, vous voyez. Elle devient à 12 ans. Elle ne veut plus entendre parler de Dieu. Et avec des parents, super. C'est très bizarre. Dieu est bizarre, vous savez. Sanctus, sanctus, sanctus. Bizarre, bizarre, bizarre le Seigneur. Hein? Pourquoi il guérit l'un et ne guérit pas l'autre? C'est bizarre. Surtout, ça ne lui est pas difficile. Quand le Seigneur guérit quelqu'un, il fait ça sans effort. Bon, ça fait partie des mystères de Dieu. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin, si vous voulez, de longues années pour dire une bonne fois, maintenant j'y suis, j'y reste. Je suis un pécheur pardonné. Non seulement je l'accepte, mais je m'en réjouis. Et tous les soirs et tous les matins, j'en dirai merci à Dieu. Et ça sera ma joie. Je serai louange de la miséricorde. Vous connaissez le chant chanté par Sylvie Buisset, la fameuse finale du dernier manuscrit de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent, n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse qui reste mon appui et sans aucun retour, qui aime tout en moi et même ma faiblesse et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour. Et c'est Thérèse qui dit ça à la fin de son dernier manuscrit. Oh, je le sens. Parce qu'elle se dit, les gens vont pas comprendre mon message. On va croire que si j'ai tant de confiance en la miséricorde de Dieu, c'est parce que j'ai eu une enfance protégée. Mais non, mais non, mais non. Oh, je le sens. Si j'avais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irais le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus. Car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Il y a des gens qui mettent des années pour accepter d'être chéris comme enfant prodigue. Il va être bien chéri de Dieu, mais pas comme enfant prodigue. Il voudrait être autre chose qu'un enfant prodigue. Et un jour, ils vont capituler une bonne fois. Mais oui, Seigneur, c'est ma définition. Je suis un enfant, je serai éternellement un enfant prodigue pardonné. Et ma joie, ce sera d'être dans tes bras, dans l'éternité. Et je n'en finirai pas de dire, merci Seigneur, qu'est-ce que tu as de la patience envers moi. Et tâchez de réaliser ce que peut être la joie de quelqu'un qui une bonne fois tombe dans les bras du Père en disant, pardon papa, d'avoir si longtemps tardé à tomber définitivement dans tes bras. Et quand vous manquez d'intention de prière, eh bien, priez pour ça, parce que j'arrive maintenant au deuxième point, pour que les pécheurs se convertissent. Il ne suffit pas de leur montrer, alors vous savez que ça c'est le tableau réalisé par un peintre polonais à la demande de sœur Faustine. Jésus lui était apparu de cette façon-là, montrant son cœur, et de son cœur par deux rayons, un blanc et un rouge. Le blanc c'est l'eau de l'Eucharistie, le rouge c'est le blanc du baptême, le rouge c'est le sang de l'Eucharistie, et Jésus dit, voyez, de mon cœur sortent des torrents de miséricorde. Et il faut que les pécheurs acceptent de les recevoir. Mais, sœur Faustine a bien compris que pour que les pécheurs reçoivent la miséricorde de Dieu, nous devons offrir des sacrifices à Dieu. Nous devons réparer les péchés des pécheurs. Il ne suffit pas de leur prêcher la miséricorde de Dieu. Il faut aussi en mettre le prix. Offrir au Seigneur des sacrifices en union avec la passion du Christ. Car je rappelle que nous ne sommes pas seulement sauvés par la miséricorde de Dieu, mais par le sacrifice du Fils. C'est le grand mystère que le pape Jean-Paul II a rappelé dans sa dernière encyclique sur l'Eucharistie. Quand vous venez à la messe, vous ne venez pas seulement vous rappeler que Dieu vous aime, vous venez offrir le saint sacrifice de la messe. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Eh bien, si vous voulez que vos frères, que vos enfants se convertissent, il faut continuer à prier pour eux, à demander la conversion des pécheurs, à offrir des sacrifices à Dieu, à offrir des sacrifices. Bon, alors on va voir ça. C'est l'autre aspect. Hein? Bon, alors, ça c'est quelques citations pour vous montrer que tous les saints, d'une façon ou d'une autre, ont clamé la miséricorde de Dieu. Il sort de son cœur une transpiration de tendresse et de miséricorde pour noyer les péchés du monde, disait le curé d'Ars. Je veux désirer sur les âmes les flammes de ma miséricorde, mais les âmes ne veulent pas les recevoir, dit sœur Faustine. Bon, etc. Dieu t'aime aujourd'hui comme il t'aimait hier, et t'aimera demain, et t'aimera toujours, et t'aimera demain, et t'aimera toujours. Bon. Mais je vais vous étonner avec la deuxième partie de ma conférence. Et c'est que Dieu est également juste, et nous allons voir que c'est une bonne nouvelle. Pour le dire tout de suite, voyez, si Dieu ne nous aimait que d'un amour de miséricorde, il ne nous aimerait pas vraiment. T'es un pauvre type, je t'aime quand même. Mais tu peux rester pauvre type, je t'aime quand même. Qu'est-ce que ce serait qu'un papa qui accepterait que son enfant reste dans la boue? Non, Dieu veut nous relever. Il veut que nous devions justes à ses yeux. Hein? Sinon ce serait de la condescendance. T'es un pauvre type, mais c'est pas grave. T'es de la crotte, mais c'est pas grave. Je t'aime comme ça. Ce serait pas de l'amour. Imaginez, t'es un papa, bien sûr qu'on aime un enfant qui se drogue, mais avec l'espérance qu'il ne se drogue plus, qu'il ne soit plus alcoolique. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est de la condescendance, c'est de la pitié, c'est pas de l'amour. Heureusement que Dieu nous aime d'un amour de justice. Il veut que nous devenions justes à ses yeux, que nous devenions beaux. Entre parenthèses, vous pouvez pécher parce que vous ne vous laissez pas suffisamment admirer par Dieu. Quand je prépare des grands adolescents au sacrement de pénitence, c'est ce que je leur dis. Il y a deux gestes que vous devez faire dans la vie. Mais même si vous êtes acrobate, vous ne pouvez pas les faire en même temps. Vous mettre à genoux devant Dieu. Tout petit devant toi, me voici Seigneur, me voici. On n'est jamais trop petit devant Dieu. Mais il y a d'autres moments, il faut se redresser de toute sa taille. Regarde Seigneur ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas mal. Mes chers amis, je crois qu'il y en a parmi vous qui ne se laisse pas suffisamment admirer par Dieu. Hein? Parce que c'est Dieu qui nous le dit. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi ton Dieu t'épousera. Comme un mari tire joie de son épouse, ainsi ton Dieu prendra plaisir en toi. Dieu a du plaisir à vous regarder ce soir, voyez. Et tantôt il faut lui dire, Seigneur, je ne suis pas grand-chose, je suis pécheur. Tantôt il faut lui dire, Seigneur, c'est pas mal ce que j'ai fait aujourd'hui. Il faut faire valoir un petit peu ce que, comme un enfant. Un enfant, il montre le petit dessin qu'il a fait pour la fête des pères ou la fête des mères. Et puis à un moment, le service que j'étais rendu, ça t'a fait plaisir. Mais oui, mon enfant, viens ici que je t'embrasse pour t'en remercier. La petite Thérèse disait que le Seigneur nous dira éternellement merci des sourires que nous lui aurons faits dans les escaliers. Hein? Elle dit aujourd'hui dans les ascenseurs. C'est très important ça. Quand vous faites quelque chose de bien, le Seigneur il vous admire. Il vous sourit avec admiration. Et vous n'y croyez pas suffisamment parce que vous ne sentez pas, on ne sent pas qu'on est admirable. On y croit sur la parole de Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi ton Dieu t'épousera. Comme un mari tire joie de son épouse, ainsi ton Dieu prendra plaisir en toi. C'est extraordinaire. Je retrouve ça une fois par mois dans mon bréviaire, le mercredi de la quatrième semaine. Ton Dieu prendra plaisir en toi. Vous rendez compte? Et, entre parenthèses, si vos enfants y croyaient, ils iraient tous les dimanches à la messe. Pourquoi tu vas à la messe? C'était pas un peu long? Si, monsieur le curé, il a oublié les trois qualités dans mon sermon. Court, bref et pas long. Mais alors, pourquoi tu vas à la messe? Eh bien, maman, c'est pour faire plaisir au bon Dieu. C'est la grande motivation. Pourquoi tu es fidèle à quoi? Pour faire plaisir au bon Dieu. Parce que ça lui plaît. Voilà. Pour être agréable à Dieu. Parce que, on n'est pas toujours en train de dire, je mets à coule pas, mets à coule pas, mets à coule. Non, ça c'est la moitié de la prière chrétienne, on se met à genoux. Hein. Seigneur, c'est pas mal ce que j'ai fait, hein. Ça te plaît, hein. Faut se redresser. Ça vous plairait que vos enfants vous disent à longueur de vie, maman, je suis nul, je suis archi nul. Non, mon enfant, je t'ai pas, mon moule ne t'est pas cassé, tu es un petit chef-d'œuvre en formation. voyez, c'est l'équilibre de la pensée chrétienne. Tantôt, on reconnaît qu'on n'est pas grand-chose devant lui, qu'on est un pauvre pécheur, tantôt qu'on est un petit prince. D'ailleurs, j'ai eu une voiture immatriculée PP59. Hein? Et mes amis se demandaient ce que j'avais payé à l'administration pour avoir une immatriculation correspondant si bien à ma spiritualité. Donc les jours pairs, je montais dans ma voiture comme un pauvre pécheur, et les jours impairs, comme un petit prince. Vous voyez ? PP, c'est pauvre pécheur, mais c'est aussi petit prince, ou petite princesse, bien sûr. Hein? Jadis, quand je prêchais des retraites aux adolescentes, mais je disais, vos boucles d'oreilles, je suppose que vous les enlevez la nuit. Et alors le matin, vous pouvez faire votre prière du matin en réajustant vos boucles d'oreilles. Seigneur, voilà ta petite princesse qui s'habille. Voilà. C'est une excellente prière pour des petites demoiselles. C'est une petite princesse qui s'habille. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a de fausses représentations de la justice de Dieu. Je ne vais pas insister là-dessus. Vous voyez, Dieu qui se vengerait sur les pécheurs, ça ne va pas. Comme si Dieu pouvait se venger, c'est faire injure à Dieu. Hein? Ou bien Dieu qui punirait systématiquement. Vous voyez, chaque... Si on, c'est ce que j'espère que vous... tu as une épreuve, c'est Dieu te punit. C'est seulement Dieu te punit. Par exemple, les Français, je vais aller vite, les Français, ils ont pensé ça en 1870. Vous savez que la France, elle a perdu contre la Prusse en 1870-71. Vous savez ce qu'ont dit beaucoup de prêtres à ce moment-là ? Cette chose énorme. C'est de notre faute si on a perdu contre la Prusse. C'est à cause de tous les péchés de la France. On a construit à Paris un opéra Garnier. C'est une honte, parce que pendant ce temps-là, les pauvres, ils crèvent de faim. Eh bien, c'est bien fait pour nous, on n'avait qu'à ne pas construire l'opéra Garnier. On a considéré que la défaite de la France, c'était à cause de ça. Et on a failli transformer l'opéra Garnier en église dédiée au Sacré-Cœur pour la réparation des péchés de la France. Et puis finalement, on a décidé de la construire sur la butte de Montmartre, l'église du Sacré-Cœur. Vous voyez, ça c'est une fausse représentation de la justice de Dieu. Mais il faut reconnaître que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les gens réagissent comme ça. Les apôtres encore. Jésus rencontre un aveugle-né. Que disent les apôtres ? Maître, qui a péché pour qu'il soit aveugle-né ? Et Jésus dit à ses disciples, vous en êtes encore là les enfants ? Vous vous imaginez que chaque fois qu'il y a une épreuve, un tremblement de terre, c'est parce que les hommes ont péché ? Non, 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 c'est faux. C'est une mauvaise représentation de la justice de Dieu. Bon, je n'insiste pas. Mais il y a de bonnes représentations de la justice de Dieu. Hein ? Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de la justice de Dieu, parce qu'ils se souviennent peut-être que ça évoque des choses pas belles du tout. Bon. De bonnes représentations de la justice de Dieu. Ça va ? Pas besoin de cacher les feralgans, non ? Non. Bon. La première, c'est que Dieu veut que nous soyons juste beaux à ses yeux. Vous voyez ? Ça, je l'ai dit déjà tout à l'heure. Heureusement que Dieu nous aime comme ça. Mon enfant, je veux que tu te relèves. Vous connaissez le mot que Jésus dit à une petite fille pour la ressusciter ? Talita, koum, lève-toi. Petite fille, lève-toi. Hein ? C'est ce que vous faites. Quand vous allez vous faire purifier dans le sacrement de réconciliation, le Seigneur, il vous redresse, il vous restaure, il vous transfigure. Il veut que vous soyez beau à ses yeux. Il vous justifie. Voilà. La justice, Dieu vous ajuste à sa justice. Il veut que nous lui ressemblions. Il ne veut pas que nous restions dans notre merde. Voyez, pour dire les choses un petit peu crûment. Il veut nous relever. Il veut nous sortir de ce serait, sinon il ne nous aimerait pas. Et il y a une façon de dire, et j'espère que les prédicateurs de Belgique ne disent pas ça. On est tenté parfois de dire ça. Vous savez, mes frères, plus vous êtes misérables, plus Dieu vous aime. Alors, le bon Dieu ne doit pas beaucoup aimer la Sainte Vierge, vous voyez. Bon, il y a quelque chose de vrai, c'est que des parents ont un faible parfois pour l'enfant difficile, c'est vrai. C'est vrai. Quand on a un enfant difficile, on ne peut pas s'empêcher de l'aimer, quoi. Hein? Je pense à une personne à qui j'ai beaucoup prêché de retraite. Elle habite en Normandie, hein, et son fils est mort maintenant. Il a fait de la prison, il était alcoolique, il habitait dans un taudis. Elle était obligée d'enjamber les bouteilles, les cadavres de bouteilles quand elle allait le voir. Et ses autres enfants étaient parfois un peu jaloux parce qu'ils avaient l'impression que la maman avait un faible pour cet enfant spécialement difficile, repris de justice. Non, c'est vrai qu'il y a une espèce de... On ne peut pas s'empêcher d'avoir une grande compassion, mais si on les aime vraiment, on souhaite qu'ils s'en sortent, quoi. Hein? Sinon, on ne les aimerait pas vraiment, quoi. On espère qu'ils vont s'en sortir. Vous savez que, entre parenthèses, le plus difficile dans l'amour, c'est l'espérance. Hein? Vous pouvez pas pardonner à quelqu'un qui ne veut pas demander pardon. C'est le problème de beaucoup de... J'ai encore, en prêchant des retraites pendant le week-end, là, j'ai rencontré des gens comme ça. Mon père, qu'est-ce que je peux faire? Mon mari, il veut absolument... Il ne veut pas demander pardon, mais... vous ne pouvez pas lui pardonner puisqu'il ne veut pas demander pardon. Il y a des gens, les aimer, c'est espérer contre toute espérance qu'un jour, ils demanderont pardon. C'est le problème. Regardez, quand il y a des problèmes d'héritage dans un... Des frères, c'est des frères... Des frères qui se disputent à la suite de la mort des parents à cause de l'héritage. C'est terrible ces trucs-là. Tous les notaires savent que c'est des choses terribles. On ne peut aimer un frère qui se dispute que dans l'espérance qu'un jour il acceptera qu'on s'embrasse. Non. Voilà. Deuxièmement, je n'y insisterai pas trop longtemps, mais ce grand mystère que Jean-Paul II rappelait dans son encyclique sur l'Eucharistie, c'est que nous pouvons offrir Dieu, il a voulu qu'on puisse réparer nos péchés. Vous savez que Benoît XVI a écrit un livre Jésus de Nazareth, hein, bon, en disant c'est pas le pape qui parle, mais c'est Joseph Ratzinger. Bon, mais, et alors, à un moment donné, il dit, je sais que cette idée de réparer nos péchés n'est pas du tout à la mode, et pourtant ça fait partie de l'Évangile. Jésus, il est venu offrir un sacrifice en réparation de nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle les calvaires qui se trouvent au carrefour de nos villages, en Belgique ou en France, représentent Jésus comme ça. C'est pas très réaliste, Jésus devait être lamentablement pendu au gibet de la croix. Et vous pouvez préférer des crucifix comme ça. Mais les crucifix, en général, présentent Jésus comme ça, parce qu'il offre à son Père un sacrifice en réparation des péchés. Ceci est le calice de mon sang répandu pour vous et la multitude des hommes en rémission des péchés. Dieu, il aurait pu s'en passer, puisque nous voyons que dans la parabole de l'enfant prodigue, le père n'exige rien de son fils pour lui pardonner. Il se contente de lui dire, mon fils, viens ici que je t'embrasse. Mais Dieu, il a voulu que les hommes puissent offrir quelque chose pour réparer leurs péchés. Et c'est l'une des raisons de la venue de Jésus sur la terre. Vous avez vu des icônes de la nativité, hein, quand les orientaux représentent la naissance de Jésus, le berceau de Jésus, c'est un autel, parce que c'est Jésus qui vient s'offrir en sacrifice à son Père. La grotte de la nativité, c'est la grotte du Saint-Sépulcre, parce qu'un jour Jésus, il va être enterré dans le tombeau, Jésus, il vient offrir quelque chose en réparation de nos péchés. C'est une bonne nouvelle, ça. Parce que du coup, quand nous souffrons, nous pouvons offrir quelque chose au cœur de notre déception, de notre épreuve. Le sourire que nous réussissons à offrir à Dieu quand nous souffrons, ça lui plaît énormément et ça sauve les âmes. Alors, sœur Faustine, elle fait beaucoup ça. Tous les saints, ils font beaucoup de sacrifices parce qu'ils savent que Dieu les réclame. Et quand vous vous obligez à sourire au milieu d'une épreuve, au milieu d'une contradiction, d'une déception, tous les jours vous avez vos petites déceptions, et de temps en temps vous avez même de grosses déceptions. Quand vous offrez à Dieu, alors vous le savez, mais vous n'avez pas forcément le réflexe de le faire, quand vous offrez à Dieu un sourire au milieu d'une grosse déception, vous sauvez le monde. C'est comme ça qu'on sauve le monde. C'est pas seulement en disant, mes frères, Dieu vous pardonne. Il faut mériter la conversion des pécheurs. Parce que les pécheurs, ils ont parfois la tête tellement dure qu'ils veulent pas se convertir. Ils veulent pas demander pardon. Non! Non! Entre parenthèses, je vous conseille beaucoup, si vous avez encore de jeunes enfants, je vous conseille beaucoup gentiment, parce que moi je ne sais pas ce que c'est qu'élever un enfant 24 heures sur 24, bien sûr, étant célibataire. Hein. Il faut apprendre aux enfants à demander pardon. Vous avez des maris qui n'ont jamais demandé pardon à leur femme, c'est vrai. Je constate ça en confessant. Je suis obligé de leur donner le mode d'emploi. Mon père, c'est vrai, j'ai jamais demandé... Quelqu'un qui se confesse d'être colérique, dit, est-ce que vous demandez pardon à votre femme de vos colères? Non, je m'excuse. Ça va pas ça. S'excuser, c'est pas demander pardon. Alors je leur explique. Un de ces soirs, vous demandez à votre femme de s'asseoir sur le bord du lit. Vous lui dites, tais-toi, c'est le plus difficile ça. Vous mettez à genoux devant elle, la tête posée sur sa poitrine ou sur ses genoux, ou les deux à la fois, et puis vous lui dites gentiment, chérie, je vais te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dite. Je vais te demander pardon pour toutes mes colères depuis 2 mois. Et le lendemain, j'ai des confidences extraordinaires. La soirée, hier soir, ça a été formidable. Mon mari, il m'a demandé pardon pour la première fois. Et j'ai pu avoir la joie de lui pardonner. Eh ? Je raconte une histoire vraie, ça ne se passe pas en Belgique, ça se passe en France. Une personne qui vient me voir dans mon bureau de prédicateur, et puis tout d'un coup elle se souvient de ce qui se passait dans son enfance. Elle boudait. Et son papa croyait bien faire en lui disant « Tu boudes, ma fille va te coucher ». Elle se privait de dessert, montait dans sa chambre, et le lendemain matin, le papa ne revenait jamais sur la bouderie de la veille. Et cette femme s'aperçoit à 40-45 ans qu'elle n'a jamais demandé pardon à personne, ni à son papa, ni au bon Dieu, ni à son mari. Elle éclate en sanglots. Elle me dit, qu'est-ce que je suis orgueilleuse. Je ne me rendais pas compte que j'étais orgueilleuse à ce point-là. C'est une conversion extraordinaire. Du coup, elle va à la messe tous les dimanches, alors qu'elle n'y allait plus une seule fois depuis son mariage. Elle se rend compte qu'elle n'a jamais demandé pardon. Son papa ne lui a pas appris à demander pardon. C'est important, ça. Il y a une joie à être pardonné. Il y a une joie à être pardonné. C'est pas humiliant. Être pardonné par un papa ou par le bon Dieu ou par quelqu'un qui... C'est pas humiliant. Il y a des gens qui mettent des années à se rendre compte que c'est pas humiliant. De récidiver en pardon quand on a récidivé en péché. Que c'est miam miam, quoi. C'est une grâce, ça. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Viens ici te faire embrasser, même si c'est pour la énième fois. Les gens me disent, je ne vais pas me confesser parce que je dis toujours la même chose. Je dis, le bon Dieu ne demande pas de faire des péchés nouveaux. Hein. Heureusement. Vous n'êtes pas obligé de dire des choses nouvelles quand vous allez vous confesser. Bon, voilà. Jésus, il vient réparer nos péchés et nous pouvons aussi réparer nos péchés et les péchés des autres. Vous savez ce que faisait Jean-Paul, vous avez vu, qu'est-ce que faisait Jean-Paul II quand il devait consacrer, devait ordonner des évêques ou ordonner des prêtres? Il jeûnait, il faisait pénitence, il ne couchait pas toujours dans son lit. Il faisait pénitence pour obtenir le pardon des pécheurs. Il ne se contentait pas de faire une encyclique sur la miséricorde. Ça c'est facile de faire une encyclique sur la miséricorde. C'est facile de prêcher la miséricorde. Ça, c'est pas trop difficile. Ce qui est difficile, c'est d'offrir des sacrifices pour le pardon des péchés. Seigneur, il exige. Il n'en a pas besoin, mais il l'exige. C'est parce qu'il nous aime bien. Dieu n'est pas paternaliste. J'espère qu'il n'y a pas ici de parents paternalistes. Vous savez ce que c'est qu'un parent paternaliste ? C'est un papa qui n'accepte jamais le cadeau que sa fille veut lui offrir pour la fête des pères. J'en connais des gens comme ça. Mon papa, il ne m'aime pas vraiment, il n'accepte jamais mes cadeaux. Alors bien sûr qu'on n'aime pas ses enfants pour les cadeaux qu'on va recevoir à la fête des pères ou la fête des mères. Mais si vous n'acceptez pas ces cadeaux, c'est que vous ne les aimez pas vraiment, vos enfants. Vous déversez sur eux votre miséricorde, votre amour, mais vous vous fichez de leur amour à eux. Ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amitié. C'est pas un échange. C'est pas un amour nuptial. Imaginez un époux qui serait indifférent à l'amour de son épouse. je gagne bien ta vie, je te donne une bonne somme d'argent pour que tu puisses t'acheter de belles choses. Maintenant, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, je m'en fiche. Ce n'est pas de l'amour, ça. L'amour est jaloux. Bien, l'amour de Dieu, il est jaloux. Tu ne pourrais pas m'aimer. Vous n'avez pas repéré dans l'évangile que Jésus, il se met à genoux devant. Pierre, dis-moi que tu m'aimes. C'est la dernière page de l'évangile. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi une troisième fois. Et comme ça, tu pourras réparer ton triple reniement. Dis-moi que tu m'aimes. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il exige cette reconnaissance. C'est pas un manque d'amour. Voyez, si Dieu réclame notre amour, cela est juste et bon. Si vous pouviez comprendre un petit peu plus ce soir que Dieu y réclame votre reconnaissance. Que c'est normal et que c'est bon. C'est déjà pas mal que vous découvriez que c'est juste, mais que c'est miam miam. Que c'est bon de lui dire merci, de lui demander pardon. C'est bon. S'il nous le demande, c'est que c'est bon. C'est pas une excuse. Non. Parce que je t'aime. Tu te rends pas compte la joie que tu aurais si tu acceptais mon baiser, mon enfant. Bon. Bien mieux. Bon. Non, toi là. Et par lui, avec lui et en lui, nous pouvons offrir. Regardez, aujourd'hui, on lisait comme première lecture de la messe, Étienne. Étienne, c'est un merveilleux diacre de l'église primitive, il prêchait admirablement, il se fait tuer par Saint Paul. Saint Paul qui commandait le commando qui a exécuté Étienne. Et vous savez, la revanche de Dieu, c'est que Saint Paul va devenir le grand prédicateur qui va remplacer Saint Étienne. Le sacrifice d'Étienne, le martyr d'Étienne, a mérité la conversion de Saint Paul. C'est l'idée des martyrs. Les martyrs qui parlent, les missionnaires qui sont partis en Océanie, ils se sont fait massacrer au début. Pierre Chanel, par exemple, ils se sont fait massacrer. Mais ils ont pensé qu'en offrant leur sacrifice à Dieu, ils allaient mériter la conversion de ces braves païens qu'ils voulaient convertir. Ils n'ont pas réussi à les convertir par leur prédication, ils vont les convertir par leur sacrifice. C'est fondamental, ça. Et quand vos enfants... Mais j'aime vous rappeler ça, il y a certainement parmi vous des parents qui ont beaucoup de mal avec un enfant. Parce que l'enfant tourne mal. Parce que l'enfant ne fait pas baptiser vos petits-enfants. Parce que l'enfant, il a renié la foi de son baptême. Apparemment, vous en souffrez. Vous en souffrez. Et plus que je ne peux l'imaginer, parce que ça vous tord les boyaux, ça. Eh bien, la souffrance, c'est par les souffrances que vos enfants vous causent que vous les sauvez. C'est au cœur de l'évangile, ça, mes chers amis. Vous savez ce qui va se passer dans le ciel? Vous allez voir, vous allez voir un tas d'enfants qui vont montrer leurs parents. On les a fait baver. Quand on avait 14 ans, 20 ans, on les a fait baver. Mais c'est par les souffrances que nous leur avons causé que nous avons été sauvés. Isaïe 53. Vous sauvez vos enfants, comme les prêtres, ils sauvent les paroissiens par les souffrances que les paroissiens leur font, en Belgique comme en France. Vous savez, j'ai pas eu de confidence de votre curé, mais c'est ça la souffrance de beaucoup de prêtres en France et en Belgique. Ils voient toutes les chaises vides. Des gens qui veulent pas, ils voudraient qu'ils viennent, pas pour remplir l'église, mais pour leur joie. Ça les fait souffrir, ça leur tord le boyau. Mais c'est parce que les prêtres acceptent de souffrir, de voir les chrétiens ne pas venir à l'église, que ces chrétiens vont se convertir. Sinon, il n'y a que pas se suicider. C'est pas vrai, mon frère. Surtout avec la crise actuelle de l'église. C'est fondamental, ça. C'est le cœur de l'évangile. Nous, Dieu, il attend notre sourire. Alors, bien sûr qu'on peut lui offrir aussi un sourire au milieu de nos joies. Mais quand on continue à lui offrir un sourire, alors qu'on a vraiment envie de tout envoyer promener, mon enfant, ton sourire, ça sauve le monde. Parce que c'est évident que ce n'est pas notre souffrance qui plaît à Dieu, mais c'est cette espèce de sourire que nous conservons au cœur de notre souffrance. Oh mes chers amis, si vous ne retenez que ça ce soir, Dieu, il réclame On n'est pas toujours en train de se présenter les mains vides. Aujourd'hui, vous venez trop souvent à l'église les mains vides. Parce qu'on vous l'a dit, et c'est vrai que vous pouvez dire, Seigneur, remplis mes mains de tes grâces. Bon, mais il y a l'offertoire à la messe. Il faut offrir, il faut venir avec quelque chose à offrir. Hein? La petite goutte d'eau qu'on ajoute au vin du calice. Seigneur, il réclame. Regardez, au début de l'évangile, et à la fin de l'évangile, Jésus accepte de recevoir des gros cadeaux, l'or des mages et le parfum de Marie de Béthanie qui valait 300 deniers. Jésus n'est pas venu sur terre recevoir des cadeaux, il est venu nous donner la vie. Mais il ne dédaigne pas de recevoir nos petits cadeaux. Il faut arriver avec les mains. Et tantôt on se présente les mains vides, tantôt les mains pleines. Ce sont deux attitudes fondamentales de la vie chrétienne. Voilà. Et puis, on va terminer par là. Bon, alors ça, je l'ai dit d'une autre façon. Il reviendra juger les vivants et les morts. Il faut compter sur la miséricorde de Dieu, ce que nous chantons, par exemple, dans une messe d'enterrement. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-lui le repos éternel. Nous comptons sur ta miséricorde, Seigneur, pour que cette personne soit délivrée du purgatoire, si elle y est encore. Mais nous savons que le Seigneur, il nous dira, montre-moi un petit peu ce que tu as fait. Nous serons jugés sur nos œuvres. Il ne faudra pas avoir des lampes sans huile. Bon, voilà. Et Jésus ne cesse de nous dire, fais gaffe, il y a une bonne crainte de Dieu. Il y a une bonne crainte de Dieu, tu pourrais rater ta vie. Prends au sérieux le dernier mot de notre Père. Délivre-nous du malin, délivre-nous du diable. Le mal, dans tous les missels, il y a un M majuscule. C'est pas le cancer, c'est pas la guerre, c'est pas la paix, c'est pas le tsunami, c'est le péché, c'est le diable. Bon, délivre-nous du... Il y a une bonne crainte du diable, chers amis, je termine par là. Il y a une bonne crainte du diable qu'ont eu tous les saints. Seigneur, je suis en danger. Tu m'en as prévenu 70 fois dans la Bible. Mon petit bonhomme, tu pourrais rater ta vie. Tellement t'es orgueilleux. Tellement t'es entêté. Tu pourrais rater ta vie. Fais gaffe, tu pourrais rater ta vie. À force de t'entêter comme ça dans ton orgueil, tu pourrais rater ta vie. Fais gaffe, c'est un bon affaire. Oui, c'est par amour que le Seigneur nous dit ça. Et entre parenthèses, s'il n'y a pas de danger de rater sa vie, Jésus est un menteur. C'est un menteur. Il dit que l'enfer existe et puis non, il fait semblant. C'est un menteur. Et donc, c'est plus Jésus, quoi. Et si vous dites, non, Dieu, l'enfer, il fait semblant qu'il y a un enfer, mais il existe. C'est un menteur. Et vous acceptez un Jésus menteur, vous? Mais je vais vous montrer que ce n'est pas paniquant. Les saints ne paniquent pas à l'idée qu'ils pourraient aller en enfer. Au contraire, ils disent, Seigneur, puisque je suis en danger, je compte sur toi. Si vous ne croyez pas que vous êtes en danger, vous dites, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, finalement. Je compte sur ma bonne volonté. Je suis un brave. J'ai 50 ans, 60 ans de fidélité conjugale, de fidélité sacerdotale. Seigneur, des crapules à Beaumont et dans les environs, il y en a. Mais moi, Seigneur, te fais pas de bile pour moi. Moi, je ferai le bon choix au moment de mourir. Donc, vous comptez sur votre bonne volonté. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous vous fiez à votre propre force. Hein? Vous dites, Seigneur, te fais pas de bile pour moi, mais je suis un brave. Occupe-toi des autres, sont des crapules. Vous n'avez plus besoin de Dieu. Vous êtes d'un orgueil épouvantable sans vous en apercevoir. Tandis que les saints, ils prennent très au sérieux les avertissements de Jésus. Voilà. Ils ont le courage d'avoir peur. Et j'exprime ça par une équation toute simple. Ma confiance est proportionnelle à ma défiance. Si vous défiez du diable, j'ai mis ça en abscisse là, hein, la ligne horizontale. Si vous prenez au sérieux, délivre-moi du mal, du malin. Vous dites, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Votre confiance en Dieu, elle est très grande. Ceux qui, au contraire, ne croient pas qu'ils sont en danger de rater leur vie, ils n'ont pas besoin d'avoir confiance en Dieu, ils ont confiance en eux-mêmes. C'est une équation toute simple qu'on peut expliquer très facilement à ceux qui vous disent que la perspective de l'enfer est paniquante, traumatisante. Pas du tout, pas du tout. Les uns disent, puisque je suis en danger, Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi, tourne les yeux vers le Seigneur. Il y a une joie d'avoir besoin de Dieu, mes chers amis. Et c'est une façon de répondre aux objections que vous pouvez avoir. Les chrétiens, ils sont toujours en train de craindre Dieu. Ils ne font pas que ça, mais ils savent que cette crainte de Dieu entretient en eux une bonne confiance en Dieu. Puisque je suis en danger, Seigneur, occupe-toi de moi. C'est ce que font les moines au début de leur office. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Seigneur, puis même en latin, festina, dépêche-toi. Voilà. Je résume. Bon, je résume. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle. Vous voyez, ça annonce la fin, ça. Il y a une joie à avoir besoin de la miséricorde de Dieu. Non seulement l'accepter, mais s'en réjouir. Seigneur, donne-moi la joie d'être sauvé, dit le psaume 50. Et ma bouche publiera ta louange. Ouvre mes lèvres, que je sois louange de ta miséricorde. C'est une joie de sentir, d'expérimenter que j'ai eu besoin de la miséricorde de Dieu pour m'en sortir. Et d'autre part, Seigneur, je t'offre tous les petits sacrifices que j'ai à faire dans ma vie, tous les sourires que je dois faire, que je dois conserver au milieu de mes déceptions, parce que ça va obtenir la conversion des autres pécheurs. Et puis, ça va te plaire, je vais mettre le prix pour que les autres soient sauvés. Et les saints, ils savent que le père Damien qu'on fête aujourd'hui en Belgique et ailleurs, eh bien c'est un homme qui, vous le savez, croyait que si Dieu permettait qu'il attrape la lèpre, eh bien c'était pour ça allait l'empêcher de s'occuper des lépreux. Il n'a pas fait exprès d'attraper la lèpre, bien sûr, mais il savait que de fait de ne pas se révolter contre la lèpre, ça allait mériter le salut des autres lépreux. C'est ça, les chrétiens, ils savent que les épreuves dont Dieu permet la présence dans ma vie, eh bien, c'est pas idiot de l'offrir à Dieu. J'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. C'est l'idée de tous les martyrs. Je suis lépreux, ou bien je n'arrive pas à convertir les gens comme je le voudrais, mais Seigneur, je ne t'en veux pas. Et le sourire que je t'offre au milieu de tout ça, ça sauve le monde. Oh, j'ai envie de vous faire chanter quelque chose pour terminer. Un chant d'enfant, mais j'aime bien le faire chanter par les moines, les enfants, les adultes, etc. Allez, on essaye. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia, je répète une fois. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. On essaie avec les gestes, bien sûr. Allez. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et même comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Si je fais une bêtise, je ne dois pas la cacher, mais de tout mon cœur, demander pardon. Dieu me regarde et même comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Que je joue au foot ou bien du piano, que je garde la guitare, ou si je fais dodo, Dieu me regardait même comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. La 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 la. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Si vous pouviez voir votre monsieur le seul curé chanter de son cœur avec tous ses bras, ça c'est formidable, la 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 la. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Vous êtes de vrais Belges. Il y a peut-être une autre question. On donne 5 minutes.
Oui,
5 minutes.
Oui.
Oui. Vous avez pas mal à la tête, non?
Non.
Pas besoin de faire à de gants?
Non.
Allez, une question. Une ou deux questions. C'est pas, il a très bien parlé. Buvons à votre santé. Il y avait quelque chose à boire quand même. Bon. Il n'y a pas quelque chose qui vous a étonné, non? Qui vous a scandalisé, non? Non? Maintenant, il faut le vivre, hein, c'est autre chose. Hmm, il y en a ce soir qui vont demander pardon à leur femme, ça va être extraordinaire.
Ah. Moi aussi, ce qui m'a étonné, c'est l'énergie que vous avez pour
oui,
ça,
ah.
Ça peut convaincre beaucoup de gens.
Ah oui, oui. Ah, ben, oui,
ça, c'est...
Non, c'est, vous savez, le secret, c'est que je n'ai jamais été curé. C'est tout simple, j'étais professeur, je suis devenu prêtre en pensant que je ne serais jamais professeur, alors que j'avais connu beaucoup des professeurs dans les collèges qui m'avaient donné envie. Mais moi, je pensais que je ne serais jamais curé, que je ne serais jamais professeur. Et donc, je n'ai jamais été curé. Donc, je ne sais pas ce que géraient les EAP, comme on sait. On dit ça aussi, les EAP, non? Hein? Comment on dit chez vous? Les équipes? Ah oui. En France, on dit les épouses absorbées par la paroisse. Non, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais merci. Mais vous comprenez, je n'ai pas à me vanter d'être en bonne santé. Mais quand même, je viens d'être opéré de la cataracte. Hein? Alors, je vous vois, mais un peu trop, quoi. Bon, autre question. Ah, c'est. Alors, c'est. J'ai un certain nombre de petits bouquins, s'il y en a. C'est, alors maintenant c'est pratique parce que c'est le même euro en France et en Belgique. Alors c'est, j'ai développé ça dans ce livre-là, mais il y a d'autres livres plus simples et moins chers. Parce que celui-ci, il vaut quand même 16 euros, c'est cher. Genre, bon. Mais il y a ce que j'aime bien, c'est les mains de Jésus. Ça coûte pas 5 euros celui-là. C'est, mes livres, ils sont très très simples. C'est pour CM2, comme on dit en c'est pour. C'est vous voyez, c'est la dernière année du primaire. Bon. Et ceux qui sont ingénieurs, ils posent les mêmes questions. Bon, y a-t-il une autre question?
Vos livres, c'est comme vous êtes tout simple.
Comment?
Vos livres, c'est comme vous êtes
tout simple. Ah oui, c'est tout simple. Oui, oui. Je suis incapable d'être. Vous voyez, j'aime beaucoup la devise de Jean 23. Il faut simplifier les choses compliquées et ne pas compliquer les choses simples. Mais. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que vous n'aimez pas toujours un peu les Français, parce qu'ils vous donnent l'impression de compliquer les choses. Enfin, vous êtes simple en Belgique. Non, mais c'est vrai. C'est pas, vous voyez, on peut être simple sans être simpliste. Et c'est important. La simplicité évangélique, c'est pas « il y a qu'à ». Non, non, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est comme...
Comme M. Desuzet, l'énergie que vous avez, c'est le Seigneur qui vous donne pour nous faire comprendre l'amour de Dieu.
C'est bien. C'est... C'est bien. Est-ce qu'il y a des cultivateurs parmi vous? Il y en a encore des cultivateurs, parce que c'est un métier qui se perd. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand je donne la communion. Oui, moi, j'ai pas des mains de cultivateur, mais j'ai des pauvres mains de gars qui fait des bouquins. Quoi. Quand je donne la communion, puis que je vois des belles mains de cultivateurs, je me dis, Jésus devait avoir des belles mains comme ça. Saint Joseph aussi. Hein, des... Donc, il y a des cultivateurs? Non, il y en a plus? Si? Non? Si? Ah si.
Pensionné.
Vous l'avez comment?
Pensionné.
Ah, vous êtes pensionné, oui, mais vous l'avez été.
Ah oui, oui.
Regardez-moi ça, ces mains de... Oh. Ah, c'est beau ça, hein? Hein? C'est bien. J'ai appris il n'y a pas longtemps par un cultivateur que j'insiste beaucoup dans les vaches. Je ne sais pas pourquoi je vous regarde en disant ça, mais... Il paraît que les vaches font 47 fois le mouvement de ruminer quand elles vont chercher de l'herbe dans la panse pour la digérer. Bien, je dis aux chrétiens, il faut ruminer la parole de Dieu. Dieu même comme ça. Dieu même. Parce que ça, sinon ça ne descend pas dans le cœur, voyez. Vous avez des gens, ils écoutent une belle conférence, ils ont même applaudi, et puis après ils oublient tout. Ils ont oublié de. Faut ruminer. Oh, j'ai oublié de vous faire la chose essentielle. Hein? Saint François de Sales, ça vous dit quelque chose, Saint François de Sales? C'est un bon auteur français du XVIe siècle. Il commente un mot des. Vous voyez? Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Eh? Oui, mais attends, c'est pas tout. Le Seigneur est mon berger. Oui, mais continue Isaïe. Le Seigneur conduit au repos les brebis, mais les brebis fragiles ont le droit à un traitement de choix. Le Seigneur, il les porte sur ses épaules et sur ses, dans ses bras. Il y a une joie à être fragile. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être fragiles. Alors ils ne sont pas portés avec affection par Jésus. Il y a une joie à être une petite brebis solide, fragile, voyez. Vous pouvez être solide sur vos pieds, mais spirituellement, on n'y arrive pas. Comme disent les... Je voudrais être belge, rien que pour ça. Vous avez une expression que j'aime beaucoup en Belgique. Il l'a eu difficile, sais-tu. Oh, que j'aime cette expression. Je ne me moque vraiment pas. C'est un sens délicieux. Il l'a eu difficile. Eh bien, quand vous l'avez difficile, Jésus, porte-moi, parce que j'y arrive pas. Hein? En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ma vie. Allez, on chante. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ma vie. En tes mains, vois notre tendresse, notre faiblesse, notre amour, nos désirs. En tes mains, nos jours de détresse façonnent nos vies. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ma vie. En tes mains, vois notre prière, notre misère, notre amour, nos désirs. En tes mains, nos jours sans lumière façonnent nos vies. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ma vie. Oh non, c'est lui qui mérite là, voilà. Voilà.
Merci.
Le berger, oh. Prenez en photo, là, regardez. Un cultivateur. Vous avez élevé des moutons aussi?
Non.
Non, la culture.
La culture, non, et la vache.
Très... Les vaches, Paul, non. Les vaches, vous les prenez pas comme ça.
Non.
C'est bien, voilà. Je vais les remettre à la bergerie, hein. Voilà. Faut savoir s'arrêter.
La conférence, vous inscrivez,
vous faites des prix. Alors, je vais faire de la réclame. Ça fait je ne sais combien d'années que je vais à Jeumont. Le mercredi soir, depuis des années, ça fait 20 ans. Il y a des gens de Merbe, qui vont régulièrement. Hein? Bon, si vous savez. L'année prochaine, je vais faire le mystique païenne, mystique chrétienne. Je vais parler du Nouvel Âge pour montrer que c'est une bon. Vous avez des gens aujourd'hui qui pensent que tout est bien, voyez, qui pensent que le mal est une illusion, c'est bon. Je pense que c'est intéressant de savoir ces choses-là. Bon, voilà, mystique païenne, mystique chrétienne. C'est le mercredi à 5h moins le quart du soir. Et à Jeumont, je fais la même conférence à 8h30. Voilà. Non, c'est pas l'église de Jeumont, c'est dans Place Verte, c'est à l'arrière du collège, c'est un petit peu difficile, il faut se renseigner. Tandis qu'à Jeumont, c'est dans la salle qui se trouve tout près de l'église, la salle Peggy. Je fais ça depuis longtemps. Voilà. Le plus difficile, vous savez, c'est pas de faire la conférence, c'est de faire venir les gens. Je félicite votre curé de vous être fait. Vous l'avez bien éduqué hein, pour qu'il vienne. Hein. Ah oui, c'est plus difficile de les faire venir. Quand
Le pardon. Oui, le pardon.
Oui, c'est ça. Donc vous allez demander pardon à votre femme ce soir, c'est ça, non?
J'ai pas besoin de demander pardon à ma femme.
Ah non, c'est ça, non.
On est connus à 13 ans et demi, on est toujours ensemble.
C'est bien.
Et le pardon, Guy Gilbert.
Ah oui.
Il a dit, n'oubliez jamais avant de vous coucher.
Oui, ça, c'est les grands-mères disent ça à leurs petits-enfants le jour de leur mariage, mais c'est très important, oui. Ne pas s'endormir sur l'oreiller sans demander pardon, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est une. Il y aurait beaucoup moins de divorces. Et... Mais c'est pas toujours facile, hein. Comment ?
Il y a quelqu'un qui va vous
parler. Oui, d'accord. Les statues qui sont là, oui.
Permets de poser une petite question quand même.
Oui.
Moi, je suis frappé d'une chose. Là, dans la conférence, vous avez bien dit que Jésus est mort sur la croix et il a pris sur lui tous nos péchés.
Oui, oui.
Hein? Bien ça. Alors, moi, quand je récite le credo, hein, à la fin, je dis, il viendra pour juger les vivants et les morts. Oui. Alors là, il a pris sur lui tous nos péchés, puis nous croyons. Hein,
mais il faut accepter ce pardon aussi. Si vous voulez, je ne vais pas expliquer ça, ceux qui sont en enfer, Dieu continue à leur pardonner, c'est eux qui ne veulent pas recevoir le pardon de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit, maintenant tu en as fait assez, maintenant je vais te punir. Non, ça c'est affreux. Les portes, je crois qu'il n'y a pas de porte au paradis, autrement dit. Vous voyez, les portes sont grandes ouvertes. Le problème, c'est d'accepter d'y entrer. Mais on dit toujours les portes du paradis, c'est une façon de parler, parce qu'il n'y a pas de porte. Elles sont grandes ouvertes. Non, c'est le problème. Regardez les enfants. Déjà, quand ils... Un enfant. Non, je ne veux pas. Mais viens manger. Il préfère rester au coin plutôt que demander pardon. C'est de l'orgueil.